Audiolib présente Dans la ville en feu de Michael Connelly. Lu par Jacques Chausspied. À tous les lecteurs qui font vivre Harry Bosch depuis 20 ans, un grand, très grand merci. Et à ceux qui, en ce jour de 1992, m'ouvrirent un passage dans la foule, aussi un grand, très grand merci. Prologue. Blanche-Neige, 1992. Le troisième soir, le nombre des morts était déjà si élevé et montait si rapidement que beaucoup d'équipes des homicides de la division avaient été retirées des premières lignes du maintien de l'ordre et du contrôle des émeutiers et affectées aux rotations d'urgence de South Central. L'inspecteur Harry Bosch et son coéquipier Jerry Edgar avaient ainsi été enlevés à la division d'Hollywood, assignés à une équipe mobile de surveillance, avec deux tireurs de la patrouille pour assurer leur protection, et aussitôt expédiés partout où l'on avait besoin d'eux, partout où l'on tombait sur un cadavre. Composée de 4 hommes, l'équipe se déplaçait dans une voiture de patrouille noir et blanc et filait de scène de crime en scène de crime sans jamais s'attarder. Ce n'était pas la meilleure façon d'enquêter sur un meurtre, loin de là. Mais vu les circonstances, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux dans une ville qui avait lâché aux coutures. South Central était une vraie zone de guerre. Il y avait des incendies partout. Des pillards, avançant en meute, passaient d'une boutique à une autre, tout semblant de dignité et de code moral parti avec la fumée qui s'élevait au-dessus de la ville. Les gangs de South LA se montraient en force pour contrôler les ténèbres, allant jusqu'à demander un armistice dans leurs guerres intestines afin d'opposer un front uni à la police. Plus de 50 personnes avaient déjà trouvé la mort. Des propriétaires de magasins avaient abattu des pillards. La garde nationale avait abattu des pillards avaient abattu d'autres pillards. Et il y avait tous les autres, tous les tueurs qui profitaient du chaos et des troubles sociaux pour régler des comptes qui n'avaient rien à voir avec les frustrations du moment et les émotions qui se donnaient libre cours dans les rues. 2 jours plus tôt, les fractures raciales, sociales et économiques qui agitaient la ville avaient brisé sa surface avec une intensité proprement sismique. Le procès de 4 officiers de police du LAPD, accusés d'avoir rossé un motocycliste noir après une course-poursuite à grande vitesse, s'était achevé sur un non-lieu. La lecture du verdict dans un prétoire de banlieue situé à quelques 60 kilomètres de là, ayant un impact quasi immédiat dans les quartiers sud de Los Angeles. Des petits groupes de gens en colère s'étaient formés au coin des rues pour huer cette injustice. Et très vite, les violences avaient commencé. Aussitôt reprises dans le monde entier, des images aériennes en avaient été diffusées en direct dans tous les foyers de la ville par des médias toujours vigilants. La police s'était prise au dépourvu. Son patron ne se trouvait pas à Parker Center et faisait une apparition très politique dans une réunion lorsque le verdict était tombé. D'autres membres du haut commandement n'étaient pas eux non plus à leur poste. Personne n'avait pris les choses en main sans attendre, et plus grave encore, personne ne bougeait. Toute la police s'était mise en retrait, tandis que les images d'une violence débridée se répandaient comme une traînée de poudre d'un écran de télévision à l'autre dans la ville. Bientôt, tout LA était en feu, et la situation était devenue incontrôlable. 2 nuits plus tard, l'odeur âcre du caoutchouc brûlé et des rêves qui couvent était encore omniprésente. Les flammes de 1000 incendies se reflétaient tels des diables dansant dans un ciel noir. Des coups de feu et des cris de colère se faisaient sans cesse écho dans le sillage de la moindre voiture de patrouille. Mais jamais les 4 hommes de la Six King 16 ne s'arrêtaient. Ils ne le faisaient que lorsqu'il y avait meurtre. Vendredi 1er mai. B-Watch. Tel était le nom donné à l'équipe de garde d'urgence en service